Donc, il y a un message de la part du Seigneur cet après-midi pour chacun d'entre nous. Le tout, ce que nous devons faire simplement, c'est d'ouvrir notre cœur. Ézéchiel chapitre 14, on pourrait lire le premier verset. « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi, donc Ézéchiel, et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. » Me laisserai-je consulter par eux ? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Et on peut aller au verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou, si j'amenais l'épée contre ce pays, et si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou, si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme, pardon, par leur justice. Amen. Des paroles pas faciles. Vous êtes d'accord quand on lit ça? Mais il faut replacer ces choses dans le contexte. C'est un Ézéchiel écrit. Et il écrit juste avant que le roi de Babylone vienne détruire la capitale Jérusalem. Et si Dieu a permis que sa ville, que Dieu quand même avait choisi, il avait choisi un peuple d'Israël, il avait choisi des hommes, David, Salomon, pour pouvoir construire Jérusalem, pour pouvoir bâtir un temple, etc. Il avait mis son cœur particulièrement sur cet endroit, mais Dieu a permis que ça aille jusqu'à une destruction réelle. C'est parce qu'il y a eu toutes sortes de péchés qui sont arrivés dans le cœur du peuple d'Israël. Et même les personnes qui venaient voir le prophète, on l'a bien lu, ils venaient parce qu'ils avaient, ils venaient voir le prophète, mais ils avaient dans leur cœur quelque chose, une idole, qui faisait que tout ce que le prophète pouvait leur dire, ça ne servait à rien. Il y avait une idole qui était là, sur laquelle ils attachaient les regards, sur laquelle ils aimaient prendre plaisir à contempler cette idole. Et le Seigneur a permis que il y ait la destruction de Jérusalem. Mais il a permis quand même que des prophètes comme Ézéchiel viennent dans ces temps difficiles. Vous imaginez le travail de ce pasteur. Juste avant que la capitale soit détruite, il devait prévenir que ça allait être le cas. Certains dans ce peuple d'Israël croyaient que parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient justes, alors Dieu allait préserver tout le monde. Et des fois, on vit à côté de certains chrétiens qui obéissent pas forcément à ce que le Seigneur demande, mais ils croient qu'ils vont être bénis par les autres qui sont autour d'eux, qui eux suivent le Seigneur. C'est une situation bien dangereuse. C'est quelque chose de bien délicat de s'appuyer sur la foi des autres. Le Seigneur nous demande d'avoir la foi à nous personnellement. Le Seigneur nous appelle à nous personnellement. Il nous connaît par notre nom et il nous demande de choisir chacun pour notre part à le suivre, à lui obéir, à faire sa volonté. Et je regardais un peu le livre d'Ézéchiel, il y a différents passages qui nous montrent jusqu'à où, à quelle proportion était le péché de ce peuple qui a amené Dieu à laisser le roi de Babylone venir détruire Israël et détruire Jérusalem en particulier. Et on voit dans le chapitre, c'est le chapitre 22, il y avait les princes qui avaient l'autorité, ils prenaient l'abus de pouvoir pour faire ce qu'ils voulaient. Il y avait le mépris des parents, vous lirez toutes ces choses, Ézéchiel 22. Ils maltraitaient les étrangers, ils opprimaient les orphelins et les veuves. Il y avait la présence de calomnies, des crimes, des adultères, des incestes, des magouilles financières. Il y avait des vols, il y avait des enfants qui étaient brûlés par le feu pour les idoles. Voilà tout ce qui se passait à cette époque. Et quand on connaît le Seigneur, on comprend, avec toutes les conseils, toutes les précautions que Dieu avait données par sa parole pour que ces choses n'arrivent pas, et toutes les malédictions qui accompagnaient ceux qui faisaient de telles choses, on comprend que le Seigneur était obligé d'intervenir. Et des fois, c'est ce que le Seigneur permet, qu'on vive des temps difficiles. Et vous avez remarqué ce qui a été dit. Si de telles personnes qui ont leurs idoles dans leur cœur viennent consulter, et ils venaient voir le prophète pour avoir une parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a connu le Seigneur et qui garde une idole dans son cœur et qui viendrait écouter cet après-midi la parole, c'est Dieu lui-même qui va répondre. Mais la réponse de Dieu, elle n'est pas forcément celle qu'on attend. Parce que Dieu, il dit, ben, je vais leur accorder des châtiments. Le châtiment, il y aura la famine, il y aura, on l'a lu, la peste, il y aura l'épée, il y aura les bêtes sauvages. 4 châtiments différents pour répondre à ces personnes qui viennent consulter l'Éternel, mais en n'ayant pas de bonne disposition de cœur, en ne s'occupant pas de ce que le Seigneur demande. Mais pourtant, au milieu de toutes ces paroles difficiles, le Seigneur nous donne la solution, le moyen le plus simple pour pouvoir avoir son approbation et pour pouvoir tenir bon malgré tous ces châtiments qui peuvent arriver, qui arriveront à toutes ces personnes qui ne font pas la volonté de Dieu. Au verset 6, il est dit « Revenez et détournez-vous de vos idoles ». Il y a cette idée de revenir, c'est-à-dire de détourner à l'intérieur de notre cœur nos yeux sur ce qui nous fait tomber et de tourner les regards vers le Seigneur. Cette idée de détourner du péché, de tourner le dos au péché et puis de nous tourner vers le Seigneur Jésus pour lui obéir. C'est tout cela. Mais je ne voudrais pas m'attarder plus longtemps sur ce côté négatif, même s'il est réel, il faut en parler. Je voudrais qu'on remarque ensemble qu'il y avait trois hommes dont le prophète a pris l'exemple et qui peuvent nous apprendre quelque chose. Comment marcher dans la justice? Chacun va nous apprendre quelque chose par rapport à la justice. Chacun de ces trois hommes est qualifié de quelqu'un qui est juste et qui peut se sauver à cause de sa justice. Il sauvera sa vie à cause de sa justice. Et quand on connaît les histoires de ces hommes, vous êtes d'accord, il y avait qui? Noé, Daniel et Job. Quand on connaît leurs histoires, on sait que ça a été le cas. Et le Seigneur prévenait simplement le peuple d'Israël qui était là, c'est pas parce qu'il y a trois hommes qui sont justes que tout le monde va être sauvé. Mais le salut, c'est quelque chose de personnel. Alors, étudions ensemble. Noé, dans la Genèse, chapitre 6, verset 8. Première chose que j'ai trouvé intéressante de relever, Noé, chapitre 6, verset 8, c'est que Noé, à cause de sa justice, à cause de toutes sortes de conditions qu'on va voir, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Qui, cet après-midi, aimerait trouver grâce aux yeux de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant? Que le Dieu Tout-Puissant puisse fixer ses regards sur vous et dire « Oui, telle personne, je l'approuve. » Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux quand on vit cette chose-là? Et c'est possible. C'est possible. Alors, voyons ce que Noé a fait. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est ce qui nous a été rappelé ce matin. Oh, mais le temps de Noé, c'était un temps facile à vivre. Tout allait bien, tout le monde allait à l'église, tout le monde priait. C'est ça? Non, c'est pas la bonne version que j'ai. C'est la version apocryphe que j'ai. Non. Quand on lit les premiers versets, on voit que même Dieu était lassé d'envoyer son... Il avait permis que son esprit aille dans le cœur des hommes au travers de la conscience. Il leur parlait, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais à un moment donné, au verset 3, Dieu dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Il y a un moment donné, je vais faire tous mes efforts pour que l'homme puisse être attentif à toutes les recommandations que je lui fais. Mais si cet homme résiste, si cet homme refuse, si cet homme choisit délibérément de ne pas être touché, mon esprit ne contestera pas à toujours. Il y a un moment où ça sera trop tard. Et plaise à Dieu que vous puissiez entendre l'appel du Saint-Esprit cet après-midi, que vous puissiez entendre la voix de Dieu et ne pas en arriver jusque-là. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 5 ? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous imaginez ? On connaît des gens qui sont dans le monde, mais on se rend compte que de temps en temps, ils ont quand même de bons désirs. Ils essaient quand même de faire du bien, au moins à leur famille. Mais là, c'était uniquement vers le mal. Et ça nous laisse penser à ce qui se passait. Mais voilà, Noé était un homme intègre dans son temps. Noé était un homme juste, et c'est ça qu'il faudrait retenir cet après-midi. Juste dans son temps. Et au verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, etc. etc. » Noé marchait avec Dieu, et ce qui se passe avec Noé, c'est que parce qu'il était un homme juste, parce qu'il était un homme intègre, il avait eu une influence aussi sur sa famille. Dieu lui dit, parce que tu es un homme juste, tu vas pouvoir bénir ta famille. Quand il a construit l'arche, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ses trois fils qui sont venus, les trois femmes de ses trois fils sont aussi venues dans le bateau, et sa femme à lui. Ils étaient huit personnes qui ont pu être sauvées, et toutes les autres, malheureusement, n'ont pas été sauvées. Pourtant, Dieu leur a laissé quand même le temps de pouvoir se repentir. Parce que, exactement, la construction de l'arche, si on calcule bien, ça a mis 100 ans. Vous imaginez ? Pendant 100 ans, les gens ont vu l'arche se monter pièce par pièce. C'est sûr qu'ils n'avaient pas les moyens techniques d'aujourd'hui pour aller beaucoup plus vite, mais je crois que Dieu aussi usait de patience. Et on pourrait dire, ah, qu'est-ce que c'est injuste de détruire toute la terre et de garder que 8 personnes. Mais pendant 100 ans, Dieu a permis que Noé puisse être ce prédicateur de justice, qu'il puisse annoncer à tous les hommes qu'il y avait un moyen de salut. Il était en train de le construire, le moyen de salut. Il était devant leurs yeux tous les jours, quand ils allaient au travail, quand ils allaient en ville. Ils passaient devant l'arche et ils voyaient le moyen de salut. Mais Jésus, quand il parle de ce temps-là, il dit que les hommes de l'époque ne se doutaient pas. Il y a quand même quelque chose d'incroyable. Ils voyaient l'arche monter devant eux, mais ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Parce que quand on n'obéit pas au Seigneur, quand on ne choisit pas de marcher dans la justice, on est aveugle. Noé, par contre, il avait choisi d'être juste dans son temps. Le résultat, c'est que Dieu lui fait connaître son plan. Dieu lui fait connaître son plan. Quand Hébreux, chapitre 11, verset 7, nous parle de Noé, je le lis pour vous, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, etc. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Par la foi, Noé a pu être au courant des plans que Dieu avait prévus, pour des plans pas faciles, mais des plans que Dieu avait prévus. Noé, il était au courant, et plus que ça, Noé, il était même participant dans l'histoire. Dieu avait choisi de se servir de lui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? Et toutes ces choses ne sont possibles que si on marche dans la justice, que si on choisit dans notre temps, dans le temps dans lequel nous sommes, de marcher dans la justice. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, en 2014, le 2 mars 2014, de marcher dans la justice, dans notre temps ? Ou est-ce que c'était juste pour Noé ? Non, c'est possible aujourd'hui. C'était possible aussi au temps d'Ézéchiel. Malgré le châtiment imminent qui allait tomber sur Jérusalem, c'était possible de marcher dans la justice. C'est ce que le prophète voulait dire. Et même si on a lu tout à l'heure que si un juste, s'il n'y avait qu'un seul juste dans la ville et qu'il ne sauverait pas ni fils ni fille, ça ne veut pas dire que si on est juste, notre famille ne va pas être bénie. Vous comprenez la différence ? Ce n'est pas parce que nos enfants sont nos enfants qu'ils vont être sauvés, pour nous qui connaissons le Seigneur. Mais parce que nous connaissons le Seigneur et qu'ils sont nos enfants et que nous les éduquons dans l'amour, dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur peut toucher leur cœur. Vous êtes d'accord ? J'espère que
vous tous qui avez des enfants ou des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants peut-être, que vous priez pour eux, vous essayez de leur transmettre cette foi que vous avez en vous-même. Donc la foi, ce n'est pas génétique, mais la foi, ça se transmet par l'influence de chacune de nos vies. Et c'est ce qui est arrivé pour Noé. Noé, il avait 3 fils qui ont pu être sauvés. Sa famille tout entière a pu être sauvée. Et il a participé au plan de Dieu. Au verset 19, il est dit... Tout ce qui vit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi. Vous imaginez, Noé, c'était le référent pour tous les animaux. Et à un moment donné, il a vu arriver il faut imaginer la scène, mais des couples de chaque espèce d'animaux, des éléphants, des lions. Et des fois, il n'a pas dû être rassuré. Mais Dieu avait choisi de l'investir de cette mission. Je te fais connaître mes plans, mais plus que ça, je veux que tu participes à la mission aussi. Je ne veux pas que tu sois un étranger, que tu vois la scène en tant que spectateur. Je veux que tu fasses partie intégrante de cette mission-là. Et le verset 22 est déjà une grande image de ce que Noé a vécu, ce qui fait qu'il a été un homme juste. C'est ce que fit Noé. Il exécuta quelque chose que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout à la lettre. Frères et sœurs, pour être juste dans notre temps, voilà ce qu'il faut faire. Exécuter tout ce que l'Éternel nous demande. Ne pas faire justement comme ces anciens d'Israël qui sont venus voir le prophète et que Dieu savait qu'ils avaient une idole dans leur cœur. Ils venaient voir le prophète pour avoir une autre parole de Dieu, une supplémentaire, alors qu'ils avaient déjà eu une parole sûrement avant qui les condamnait par rapport à leurs idoles. Ils fixaient leur regard. La version littérale dit « Ils faisaient monter leurs idoles sur leur cœur ». C'est-à-dire que tout en haut de l'échelle dans leur cœur, ils avaient mis leurs idoles, et non seulement ils avaient fait ça, mais ils fixaient continuellement les regards dessus, sur ceux qui les faisaient tomber, sur ceux qui empêchaient l'approbation de Dieu. Faisant comme Noé, qui lui, il marchait dans la justice dans son temps, et le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a utilisé. Et d'ailleurs, si on lit la fin de Hébreux 11, verset 7, qui concerne Noé, il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Que ça soit notre cas. Parce que cette justice-là nous permet d'être sauvés. Deuxième exemple, il se trouve dans Daniel, et qui nous parle bien sûr de Daniel. Daniel chapitre 1er, Daniel 1 verset 3. Le roi donna l'ordre à Aspenas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Et regardez le verset 8 qui montre que Daniel avait cette justice, marchait dans la justice. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel résolut. Première chose qui fait que Daniel était juste. Daniel prend des résolutions. Et Daniel choisit d'avoir des sentiments qui sont fermes pour le Seigneur, comme on l'a entendu pour cette exhortation par rapport à la Sainte-Seine, que nous soyons fermes dans nos sentiments, que dans nos pensées nous puissions décider et poser nos pensées, les fonder, les enraciner dans la personne de Jésus-Christ, rendre nos pensées captives à son obéissance. C'est exactement ce qu'a fait Daniel. Daniel résolu. Est-ce que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous n'avons pas justement besoin d'être résolus, mais être résolus dans des choses éternelles, dans des choses qui ne passent pas. Ce monde passe à une vitesse folle. Il y a toutes sortes de technologies qui montent les unes après les autres. Et si on veut avoir le portable dernier cri, on vient de l'acheter, qu'il est déjà dépassé. Le monde passe à une vitesse folle. Est-ce que c'est dans la technologie que je vais me résoudre? Est-ce que c'est dans la puissance, dans les différentes choses que la vie peut m'offrir, dans les richesses? Du jour au lendemain, on peut tout perdre. Il suffit qu'une banque fasse faillite, il suffit qu'un pays soit attaqué. Il y a tellement d'événements qui peuvent faire que toutes ces choses de cette terre passent. Mais Daniel, il a résolu de ne pas se souiller. Il a résolu de s'attacher à des choses, à des valeurs qui ne passent pas, à s'attacher à son Seigneur. Et il a résolu de marcher dans la sanctification, ne pas se souiller. On comprend bien que c'est choisir de marcher dans la pureté, choisir de ne pas faire ce qui déplaît au Seigneur. Il cherche, Daniel, la sainteté. Est-ce que cet après-midi, nous avons ce cœur-là? Seigneur, je veux être saint. S'il y a une moindre saleté dans mon cœur, même si c'est un grain de sable qui est là dans mon cœur, je sais que ce n'est pas bon. Je veux que tu me laves, Seigneur. Je veux encore utiliser ton sang pour me laver par la grâce, parce que je ne le mérite jamais. Il n'y a aucun moment où je mérite d'être lavé de mon péché. Mais Seigneur, c'est ta grâce. Et je veux l'user encore. Je ne veux pas recevoir la grâce en vain. Je veux être utile, Seigneur. Au verset 9, la conséquence. Comme Noé, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Vous voulez faveur et grâce? Voilà ce qu'il faut faire. Être résolu à ne pas se souiller. Et au verset 17, on peut lire même avant, au verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Est-ce que ça vous arrive de mettre votre foi à l'épreuve vous-même? Est-ce que ça vous arrive de dire à quelqu'un, mais je vais prier le Seigneur, quelqu'un qui est malade, je vais prier le Seigneur, je crois que le Seigneur peut te guérir. Est-ce que ça vous arrive encore d'oser mettre à l'épreuve votre foi, vous-même? Le Seigneur des fois le fait, et souvent le fait, mais est-ce que ça nous arrive? Daniel, il a fait ça. Il a dit au chef des eunuques, il a dit, je vais manger des légumes et tu vas voir, au bout de 10 jours, tu vas voir que notre Dieu, il va faire en sorte que ça aille mieux que les autres. Il a mis sa foi à l'épreuve, sa foi en action. Il s'est engagé pour Dieu, vous comprenez? Alors il faut le faire avec une sagesse profonde, mais Daniel pouvait le faire parce que justement, il était déjà quelqu'un qui était résolu de ne pas se souiller, marcher dans la sainteté, il avait l'approbation de Dieu, il avait sa faveur, voilà pourquoi il pouvait dire de mettre à l'épreuve. Mais je voudrais quand même aller plus loin, verset 17, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » À cause de sa justice, Daniel, le juste, est devenu quelqu'un qui voyait juste spirituellement. Et quand on lit le livre de Daniel, c'est un des livres de l'Ancien Testament le plus prophétique de tous. Parce qu'il nous raconte toute l'histoire jusqu'à la fin des temps, mais il passe par toutes sortes de détails qui racontent certains royaumes qui ont émergé. Il parle d'Alexandre le Grand qui est arrivé quelques centaines d'années après, son royaume a été partagé en 4. Il y a toutes ces explications qui sont données. Pourquoi? Parce que Daniel était juste. Et parce qu'il était juste, Dieu a pu lui révéler, comme à Noé, ses plans. Il a pu lui montrer certaines choses. Daniel était tellement juste que lui, il lui demandait simplement, « Seigneur, c'est jusqu'à quand que les 70 ans vont être terminés de désolation sur Israël ?» Et Dieu lui a répondu, mais il allait plus loin. Il lui a montré qu'il allait avoir aussi un oin, le Seigneur Jésus, qui allait venir sur la croix, qui allait être retranché de la terre des vivants à cause du péché et qu'à cause de son sacrifice, nous pourrions être pardonnés. Il a montré toutes ces choses. Il a montré jusqu'au moment où cet oin-là reviendrait plein de force, régner en roi des rois. Et c'est cette chose-là que nous attendons en particulier, nous qui croyons au Seigneur. Mais parce que Daniel était juste, il a eu cette vision incroyable. Et Daniel expliquait toutes les visions. Oui, à cause de notre justice, nous pouvons aussi voir juste dans le monde qui nous entoure. Nous pouvons nous rendre compte de ce qui se passe réellement. Nous rendre compte que notre monde, comme il était dit ce matin, notre monde est dans la corruption. Notre monde est dans les ténèbres. Et s'il ne se repent pas, eh bien, c'est les châtiments qui vont avoir lieu. Simplement. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on reste dans le péché, forcément, il y a la mort qui vient, qui est attachée. On ne peut pas marcher sur une autre voie si nous sommes dans le péché. Par contre, si nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous pouvons avancer sur le chemin de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et regardez quelle vision Daniel il avait de lui-même. On pourrait se dire, cet homme, il a eu beaucoup de connaissances, il a eu beaucoup de révélations, il peut à un moment donné s'enorgueillir. Mais au chapitre 9 et au verset 17, Daniel est en train de prier justement pour que le peuple d'Israël puisse être rassemblé à nouveau dans son pays. Daniel chapitre 9, verset 17. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Pourtant, Daniel était un homme juste. Mais il avait ce regard clair que devant le Seigneur, personne finalement n'est juste. Personne. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous pouvons nous tenir cet après-midi dans la présence de Jésus. C'est à cause de ses grandes compassions, à cause de son grand amour, à cause de toutes ces choses qu'il veut encore nous apporter, parce que c'est lui, ce Dieu, qui a fait le premier pas, qui s'est donné. Je voudrais qu'on puisse aller simplement au chapitre 6, verset 21. C'est une histoire qu'on connaît bien. C'est quand Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Et le roi, qui n'a pas réussi à dormir de la nuit, il vient le matin très tôt pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il lui pose cette question, on peut lire au verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, regardez comment Daniel était connu par le roi de l'époque. Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers, comment ? Avec persévérance. A-t-il pu te délivrer des lions ?» Pensez aux bêtes sauvages. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Et alors, au verset 27, la fin du verset 27, le roi, il fait une prière, il dit, c'est lui, c'est le Dieu de Daniel qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Voilà pourquoi Daniel n'avait rien à craindre des bêtes sauvages, en reprenant l'expression qui a été donnée. Voilà pourquoi Daniel n'avait rien à craindre de la famine spirituelle qui pouvait l'atteindre, parce que lui, il se connaissait où était la source de toutes les provisions incroyables, de toutes les bénédictions, c'était en son Dieu. Voilà pourquoi Daniel n'avait pas peur de l'épée, n'avait pas peur de quelconque condamnation, même du roi, parce qu'il savait que devant le Seigneur, il était innocent. Devant son Dieu, il avait demandé pardon pour son péché, maintenant il était pur, il était lavé. Je ne voudrais pas aller plus loin par rapport à Daniel, parce que le temps nous manquerait, mais je vous invite à lire toutes les étapes qui ont montré que Daniel était juste. Je voudrais finir avec Job, et simplement lire le premier chapitre, quelques versets du premier chapitre, qui nous montrent que Job était connu pour être ferme dans sa justice, malgré les épreuves qu'il a rencontrées. Est-ce que Job, il a rencontré quelques épreuves ? Quelques-unes ? Plusieurs. Est-ce que c'était des petites épreuves ? C'était des choses incroyables. Il a perdu des enfants, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu même la santé. Et pourtant, à aucun moment, on va le lire, il a douté de Dieu. À aucun moment, il n'a remis Dieu en question. Job chapitre 1, verset 8, c'est Dieu qui parle au diable. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Est-ce que vous aimeriez que Dieu dise la même chose de vous, si vous pouviez l'entendre en ce moment ? Est-ce que vous aimeriez ? Oui ? Moi, j'aimerais que le Seigneur puisse dire la même chose. Et alors, le diable, il attaque Job, comme on l'a dit, de différentes manières. Et à la fin du chapitre 1, on peut lire à partir du verset 21, ce que Job dit devant toutes ces épreuves, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Est-ce qu'il n'aurait pas pu comme on l'entend souvent, remettre en question le Seigneur et ne dire « Mais Dieu, tu es totalement injuste dans ce que tu fais. J'ai jamais péché, j'ai toujours fait le bien et pourtant il m'arrive toutes ces épreuves. » Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça? Malheureusement, on est au contact de personnes qui, des fois, réagissent de cette manière. Et parce qu'ils vivent une petite épreuve qui n'a rien de comparable à tout ce que Job a vécu, ils ne persévèrent pas.
Regardez ensuite ce que Dieu dit à nouveau, chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et regardez ce qu'il a rajouté. « Il demeure ferme dans son intégrité. » Et tu m'excites à le perdre sans motif.
Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans sa justice. Voilà ce qui fait que Job était quelqu'un qui pouvait se sauver par sa justice, non pas sa justice propre, mais la justice qu'il avait obtenue en obéissant au Seigneur. Il demeure ferme dans sa justice, malgré les épreuves, malgré les attaques de l'adversaire, malgré tout ce qui peut arriver, Job demeure ferme.
Job est juste, il a le respect, la crainte de Dieu, il haït le mal. Il n'y a sur la terre aucun homme qui fait comme lui, qui se détourne du mal.
Est-ce que nous sommes des personnes qui nous détournons du mal? Quand le mal, on sait qu'il va y avoir une situation mauvaise, on fait tout pour éviter cette situation. Est-ce que nous avons cette attitude de cœur?
Je voudrais finir l'exemple de Job avec ce verset. Jacques, chapitre 5, verset 11. L'apôtre Jacques parle de Job, justement. Et regardez ce dont il parle, dans le contexte dont il est question. C'est question de personnes qui se plaignent des uns des autres. On pourrait lire au verset 9, Jacques 5, verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui vous ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car Job était parfait. » Non, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.
Et si Job a pu rester dans la patience malgré son épreuve et a pu obtenir à la suite des bénédictions, ce n'était pas parce qu'il était parfait, mais c'était à cause des bontés du Seigneur, à cause de son amour, à cause de sa grâce qui permet à tous ceux qui se traversent des difficultés d'être secourus. Et on parlait de la famine, est-ce qu'on n'est pas dans des temps de famine spirituelle autour de nous? Mais la Bible nous dit, et le Seigneur Jésus nous dit, que la parole de Dieu est une nourriture qui peut venir, qui peut venir nourrir notre âme justement, qui peut venir apaiser notre faim, qui peut nous donner toutes ces forces dont on a besoin pour résister aujourd'hui. Dieu nous donne une provision divine face aux bêtes féroces que nous pouvons rencontrer. Ces bêtes féroces, ça parle de l'épreuve. Demandez à Daniel, quand vous le verrez au ciel, est-ce que ce n'était pas une épreuve d'être dans la fosse aux lions? Et vous répondra certainement. Et c'est vrai que les bêtes féroces, ça représente toutes ces épreuves auxquelles on peut être confronté, qui viennent de l'extérieur nous attaquer. Mais face à toutes ces bêtes féroces, Seigneur nous promet sa protection divine, surtout à tous ceux qui marchent dans la justice, tous ceux qui sont comme Daniel, qui ont une confiance en Dieu, qui servent le Seigneur avec persévérance. L'épée, regardez l'exemple de Job. Job, il était dans l'épreuve la plus terrible. Même sa femme, a commencé à lui lancer des paroles mauvaises. Et puis après, il est venu être consolé par des amis qui ont dit de bonnes choses. Quand on lit ce que les amis de Job ont dit, ils ont dit de très bonnes choses. Mais au milieu de ces choses, il disait, Job, tu n'es pas juste. Job, tu as péché. C'est parce que tu as péché que Dieu te punit. Des amis qui n'avaient pas compris ce qui se passait. Ils n'avaient pas de discernement. Et malgré les bonnes paroles, des fois on est entouré de personnes qui ont de bonnes paroles bibliques, on va dire, mais qui les emploient à mauvais escient, qui prennent certaines paroles bibliques pour nous assommer. On avait une expression quand j'étais jeune, on disait « lapider à coups de Bible », vous savez? Mais c'est vraiment le cas, on sort toutes sortes de versets, alors que nous on est dans la difficulté, dans l'épreuve, les gens sortent tous les versets pour nous amener plus bas que terre. Le Seigneur, il ne fait pas ça. Quand il nous donne une parole, c'est pour nous relever. Quand il nous tend la main, c'est pour nous faire aller plus haut encore. Quand il pourvoit le Seigneur, c'est pour que nous puissions faire des progrès. C'est pour que nous puissions être lavés et partir de plus belle encore. Oui, l'épée, c'est toutes ces paroles qu'on peut entendre autour de nous qui sont mauvaises. Si on n'est pas juste, si on ne marche pas dans la justice, tout ça peut nous blesser. Mais si, comme Job, on marche dans la justice. On choisit d'être persévérant, ferme dans notre intégrité. Alors toutes ces paroles, elles vont rebondir sur nous. On pourra déployer spirituellement le bouclier de la foi et tout cela n'aura aucun lieu de nous blesser. Ce qu'il faut faire, ce que le Seigneur demande simplement, c'est cette parole que nous avons lue tout à l'heure. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Peut-être que quelqu'un cet après-midi, il y a beaucoup de choses qui vont bien dans sa vie, il connaît déjà le Seigneur, il fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais il y a une idole qui est là dans sa vie. Le Seigneur, il ne demande pas 50 choses différentes, il dit « détournez-vous de vos idoles ». S'il y a quelque chose qui est là dans votre cœur, qui a réussi à monter jusqu'en haut, jusqu'au sommet de votre cœur, déposez-le au Seigneur. Arrêtez de fixer vos regards sur cette chose-là. Ce n'est pas en vous complaisant dans votre péché que vous allez pouvoir être sauvé. C'est en vous détournant du mal. C'est en vous résolvant à ne pas vous souiller dans les choses de ce monde. Venez, revenez au Seigneur. Détournez-vous de vos idoles. Les justes, tous ceux qui marchent dans la justice, n'ont rien à craindre à tous ces châtiments terribles que nous avons lus. Mais ceux, par contre, qui résistent à Dieu, ceux qui viennent dans la présence de Dieu et qui ne veulent pas écouter le Seigneur, ceux qui contestent continuellement avec l'Esprit de Dieu en eux, ceux qui refusent de prendre en compte leur conscience, tout cela risque d'être jugé par le Seigneur, par sa parole. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Mais un jour, par contre, il sera le juste juge sur son trône. Un jour, alors que nous serons tous réunis dans le ciel, Dieu, le Seigneur Jésus, jugera les bons et les mauvais. Il mettra les uns à sa droite et les autres à sa gauche. J'espère que nous serons à la droite du Seigneur. Moi, je sais que je serai à sa droite et je prie le Seigneur de me garder dans cette fidélité, dans cette droiture. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous aussi qui ont cette espérance glorieuse, non pas parce qu'on le mérite encore une fois, mais c'est à cause de ses compassions. Alors cet après-midi, écoutons ce conseil. Ça serait bien qu'on le relise encore. Ézéchiel 14, au verset 6. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, c'est pourquoi, dis à l'Église cet après-midi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Et regardez ce qu'il est dit après. Au verset 8, vous saurez que je suis l'Éternel. Qui cet après-midi veut savoir qui est l'Éternel vraiment ? Qui cet après-midi veut avoir un contact véritable avec le Dieu Tout-Puissant de l'univers ? Oui, ce Dieu qui donne un nom à chacune des étoiles, il est capable de s'intéresser à chacun de nos noms à nous, chacune de nos personnes. Est-ce que cet après-midi, il y a quelqu'un qui veut dire « Seigneur, je veux revenir à toi. Cet après-midi, je veux me détourner peut-être de ces choses que j'ai mis en premier dans mon cœur. Cet après-midi, peut-être moi, je marche déjà dans la justice, mais aide-moi à être ferme, aide-moi à être persévérant, aide-moi à être comme Job, à avoir cette patience qui permet de résister dans l'épreuve, dans la difficulté, et de ne pas craindre toutes ces choses qui pourraient arriver autour de nous. Oui, notre monde est en train de mourir, notre monde est dans la corruption, mais nous pouvons être préservés. Et nous pouvons être en bénédiction à ceux qui sont autour de nous. Et Dieu peut encore user de patience tant qu'il va trouver des hommes justes, des hommes qui vont prendre soin de veiller à leur voix, à leurs paroles. Les personnes qui sont venues voir Ézéchiel, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire comme Abraham, en disant, Seigneur, tu sais, il y a 10 justes dans cette ville. Au début, il commence 50 justes, après il y en a 40, il y en a 20, 30, 20, 10. Alors si, à cause de ces personnes, est-ce que tu peux les sauver ? Le Seigneur, il dit oui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé 10 justes. Est-ce que cet après-midi, le Seigneur peut trouver plus que 10 justes ? Je crois que oui. Mais je crois que si le Seigneur voit un endroit, une église remplie de personnes qui sont dans la justice, alors il peut bénir toute une ville entière, tout un quartier entier. Il peut bénir tout un pays entier à cause des justes qui sont présents. Que nous puissions marcher dans cette justice par la grâce de Dieu. Amen. Merci Éternel. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous pouvons compter sur tes conseils, sur tout ce que tu nous apportes, Seigneur. Parce que tu nous donnes la force de tenir bon, quelles que soient les circonstances. Face à tous ces châtiments terribles, Seigneur, tu es présent. Face à la peste, Seigneur, à cette faiblesse qui vient du dedans de nos cœurs. Seigneur, toi, tu nous donnes ta force divine. Tu nous rassures par cette paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence. Seigneur, face aux paroles qu'on peut entendre, à ces épées qui se déploient autour de nous, Seigneur, tu nous gardes dans ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, qui nous communique la vie. Cet après-midi, par ta parole, communique la vie à tous ceux qui sont présents. Tu vois ceux qui sont dans la faiblesse, ceux qui sont dans la famine spirituelle peut-être, ceux qui sont dans la sécheresse. Tu es capable de pourvoir aussi à leurs besoins spirituels. Seigneur, bénis les cœurs. Tu vois ceux qui se sont détournés de toi. Permets qu'ils puissent revenir à toi dans ces moments, saisir à nouveau ta main. Éternel, dans ces instants, nous voulons choisir de nous résoudre à ne pas nous souiller à ce monde et nous voulons prendre part à toutes les promesses que tu nous as données dans ta parole, Éternel. Merci, merci parce que tu nous as donné l'exemple de ces trois hommes. Oui, nous voulons continuer à les méditer, à réfléchir, Seigneur, en quoi ces hommes étaient justes devant toi et réfléchir pourquoi tu les as bénis, Seigneur, et que tu puisses faire la même chose avec chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons connaître tes plans, quelle est ta volonté, et nous voulons être participants à ton œuvre, Seigneur. Nous sommes ouvriers avec toi, Seigneur, alors nous voulons être utiles entre tes mains, Éternel. Que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu fais. Amen.